Sabine Wynne sur le radeau poétique des Boat People.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est parce qu'elle a été mise à la porte de sa mémoire qu'elle écrit et qu'elle traduit. Née dans un Saïgon vietnamien, perdu avec la guerre, Sabine Wynne aura traîné sa valise sans souvenir en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Mise à la porte de l'histoire, il n'est pas indifférent de savoir qu'elle vit aujourd'hui en Israël. Bardée de diplômes, licence d'anglais, maîtrise de sciences du langage, docteur en linguistique, quelque chose me dit que Sabine Wynne se méfie des humains. La preuve, cette poétesse se barricade derrière une montagne de livres et de théières. Connectée au presque dire et au comment traquer le souvenir, elle nous arrive de Tel Aviv avec deux bombes poétiques. Un nouveau livre, Prendre la mer, 60 sonnets pour les Boat People, paru chez Bruno Doucet. Et puis Elvis à la radio, paru chez Maurice Nadeau, qui pourrait nous servir en sol majeur de film narratif. Tiens, me revient un vers de Prévert, qu'elle cite parfois, qui pourrait résumer notre belle passagère, et qui dit
« Je suis ce que j'ignore, devine, oublie, découvre. »
C'est pas encore une aurore boréale, mais c'est déjà Björk sur RFI. Bonjour Sabine Wynne.
Bonjour Yasmine Chouaki.
Un style vocal, hein, Björk, musical, visuel aussi. Je me demandais, est-ce qu'il fait chaud ou est-ce qu'il fait froid pour vous quand vous écoutez ce morceau intitulé Isobel ?
Il fait chaud parce que j'ai beaucoup dansé sur, sur Björk, donc il fait très chaud même.
Pourquoi ce morceau en particulier de Björk ?
Pourquoi ce morceau ? Parce que j'ai tout de suite aimé la façon dont elle chantait en anglais, parce qu'elle avait un accent. Ça me plaît, les voix qui ont des accents. C'est une étrangère qui chante pour les étrangers, c'est ça qui m'a plu. Et puis, ce morceau en particulier, parce qu'elle dit « Je suis mariée à moi-même, married to myself ». Et longtemps, j'étais mariée à moi-même.
Alors, bienvenue dans ce portrait en sol majeur. Vous allez peut-être en sortir encore plus mariée avec vous-même. Et pour commencer, je vous emmène au pays où il fait peur. On est en 1975.
Tandis que Phnom Penh tombait, les colonnes blindées du Nord-Vietnam fonçaient sur Saigon. Quelques unités sud-vietnamiennes se sont bien battues, mais la plupart des officiers ont déserté. Il ne reste plus sur la route de Saigon que des bandes de fuyards désorganisées. La partie est perdue. Le 21 avril, le président Thieu, avec qui Hanoï refuse de discuter, démissionne. Le 28, le général Minh, le gros Minh, qui représente le fantôme de la troisième force neutraliste, le remplace. Les pluies de la mousson ont commencé. L'armée de Hanoï est aux portes de Saigon. Le 29, les hélicoptères de la 7e flotte viennent chercher les Américains et les Vietnamiens trop compromis sur le toit de l'ambassade des États-Unis.
Extrait du doc Histoire du Vietnam, Adieu Saigon, avec évidemment, si l'on convoque votre mémoire sonore, Sabine Wynne, le bruit des hélicoptères rejoint par un fond de radio. Quelle est l'image associée à ces sons ?
C'était très bizarre pour moi d'entendre cette archive qui date d'une année où j'étais encore au Vietnam, d'autant plus que j'ai toujours refusé de regarder les films sur la guerre du Vietnam. Et la première image qui m'est venue à l'esprit, c'est l'image d'une petite fille sous un lit, les mains sur les oreilles.
Alors, il y a des chansons, parce qu'évidemment, on entendait Elvis Presley avec son White Christmas. Je ne l'ai pas inventé, ça.
Non. C'est connu que voilà, cette chanson chantée par Elvis, Noël Blanc, était effectivement le signal secret de l'armée américaine pour dire à son personnel d'évacuer le Vietnam. Donc le signal, c'était le jour où vous entendrez cette chanson passer en boucle à la radio des forces armées américaines. Ça veut dire qu'il faut plier bagages.
Et donc forcément, il y a de l'histoire familiale derrière cette chute de Saigon.
Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, ma famille était pro-américaine. Donc la chute de Saigon, ça voulait dire une partie de la famille emprisonnée, assassinée, et l'autre partie qui devait trouver un moyen de fuir.
Donc dans ce dédale de lointaine mémoire, je crois que le mot mémoire va revenir souvent dans votre ensemble majeur, vous arrivez à percevoir la fillette que vous étiez. Extrait d'Elvis à la radio.
Si la fillette frémit de peur, ce n'est pas à cause des explosions, mais parce que depuis toujours tourne dans sa tête l'histoire effroyable, colportée, répétée dans sa famille, de ce nourrisson laissé seul quelques instants dans son couffin au milieu du jardin. Le temps d'aller chercher quelque chose à l'intérieur, un biberon, un peu d'eau, un doudou, un hochet, ou juste le temps de souffler. Je sais combien sont précieux les moments de liberté provisoire d'une jeune mère. Hors d'atteinte de la tyrannie de son bébé, Elle ferme enfin les yeux et tente de respirer profondément, une main pressée sur son front moite, de rassembler ses esprits et d'étirer l'instant de répit avant que les cris du bébé ne l'arrachent à elle-même et ne l'obligent à surgir de son corps, rester sur place entre deux portes de placard grandes ouvertes, et courir à perdre haleine vers leur provenance. Sauf que... dans le conte horrible, le bébé a disparu. Une armée de fourmis rouges géantes l'a dévoré. Rouge, comme le parti communiste honni par mes parents et leur famille.
Ce récit que vous faites, Sabine Wynne, de cette petite fille envahie comme ça par cette image de fourmis rouges, est-ce qu'on peut appeler ça un souvenir ?
Un faux souvenir, un vrai mensonge, je ne sais pas. En fait, c'est vrai que depuis toujours, j'ai cette image voilà, d'une procession de fourmis rouges qui passe devant mes yeux.
Les images, elles viennent d'où ?
Les images, elles viennent des mots. En fait, ce sont les mots qui convoquent les images. Pour écrire, on pose un mot après l'autre et... moi, j'écris beaucoup par association d'idées. Donc, je ne sais pas si elles me viennent de souvenirs.
Je me souviens que mon oncle avait une 11 chevaux immatriculée 7070 RL2. Je me souviens du cinéma Les Agriculteurs et du fauteuil club du Caméra et des sièges à deux places du Panthéon. Je me souviens de Lester Young au Club Saint-Germain. Il portait un complet de soie bleue avec une doublure de soie rouge. Je me souviens de Ronconi, de Brambilla et de Jésus Mujica et de Zaaf, l'éternelle lanterne rouge. Je me souviens qu'Art Tatum a plein un morceau Sweet Lorraine parce qu'il avait été en Lorraine pendant la guerre de 14-18. Je me souviens du tac-tac.
M comme...
Je me souviens d'un anglais manchot qui battait tout le monde au ping-pong à Château 2.
Madeleine de Proust.
Je me souviens de Ploum Ploum Tralala.
Alors que vous inspire, je ne sais pas si vous aimez vous souvenir vous aussi, ça ce sera une question sans réponse peut-être, mais est-ce que vous inspire la voix de Georges Perec et son fameux « Je me souviens »
Georges Perec est mon père adoptif en fait. Quand j'entends Perec, je vois Perec en photo, je lis Perec. C'est un peu le retour à la maison pour moi.
Alors en quoi ? Pourquoi cet auteur en particulier et un texte en particulier ? Je crois que vous êtes très attaché à W ou le souvenir d'enfance.
Oui. Perec n'a aucun souvenir d'enfance et pourtant il va essayer d'écrire sur sa famille, sur sa mère, sur ce qu'il ne sait pas. Il y a ce côté de la structuration du chaos chez Perec, mais c'est un chaos vide en fait, puisque c'est un chaos qui est totalement englouti par l'absence.
Et, chaos traumatique, on rappelle, hein, son père a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale, sa mère déportée à Auschwitz, c'est un enfant caché de la guerre.
Oui, moi cette problématique d'organiser un chaos vide était au centre de ma vie et de mon écriture, donc c'est pour ça que je me suis... beaucoup reconnu dans les écrits de Perec. En plus, ce style, il me calme. Ça parle de choses terribles, on devine des choses terribles, mais en même temps, c'est clair et précis et posé, et scientifique. Et Perec est un bon remède à ma folie, parfois.
Mais vous diriez que dans ce récit... Elvis à la radio, paru chez Maurice Nadeau, vous le présenteriez comme une organisation autour d'un chaos vide.
Oui, tout à fait. Puisque je pense que c'est quand même une tentative de cerner ce qu'ont été mes parents. Et comme mes parents ne m'ont jamais rien raconté de leur passé au Vietnam, que nous pouvons imaginer comme tout à fait chaotique, n'est-ce pas ? Je voulais faire un pas vers eux comme ça, mais en même temps en n'ayant aucune information.
Un chaos vide, parce que de nouveau, la mémoire... elle n'est pas là et vous dites que la mémoire est une langue étrangère pour vous.
Quand je dis une langue étrangère, donc d'une part c'est une langue qu'il faut apprendre, mais je pense aussi au vietnamien qui m'a toujours échappé. Il est vraiment lié à la mémoire pour moi. La mémoire, c'est une langue étrangère, c'est la langue vietnamienne peut-être.
Vous ne dites pas la langue maternelle.
Ah non, je ne dis pas la langue maternelle, je n'ai pas de langue maternelle. J'ai été élevée par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 4 ans. Et,
qui parlait le vietnamien.
Je pense, mais je ne me souviens pas du tout d'elle me parlant, étant donné que moi non plus je ne parlais pas. Donc, par contre, je me souviens. J'ose dire je me souviens, mais en fait je me souviens de choses que j'ai écrites. À partir de quoi je les ai écrites? À partir d'images? Est-ce que ce sont des images que j'ai inventées ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je m'y suis accrochée. J'en ai fait mes souvenirs. Donc je peux dire, je me souviens de la radio des forces armées américaines allumée dans la maison de ma grand-mère, qui était ma babysitter en fait. Donc ma langue maternelle, si on a une, ma mère, ça serait la radio et la langue, ça serait l'anglais américain.
Le premier chapitre de votre récit, Elvis à la radio, s'intitule « Je suis née ». Et la première phrase dit « Son histoire a l'air simple. Elle est née dans un pays en guerre. Pourquoi ce « je » devient tout à coup « elle » Sabine Wynn?
Je crois que dans ce texte, à chaque fois que le « je » devenait « elle », c'était pour m'aider à mieux dire peut-être. Enfin, ça instaurait une distance qui ouvrait ma parole.
L'écriture laisse passer la petite fille.
Oui, mais cette petite fille, c'est moi et c'est pas vraiment moi, puisque comme je n'ai pas de souvenirs d'enfance, donc je sais que j'ai été cette petite fille, mais pour moi c'est comme ma petite fille que rétrospectivement j'aimerais protéger.
Vous semblez raconter en tout cas que vous avez eu deux enfances, on va dire une douce et lumineuse au Vietnam, même si ça a été un Vietnam en guerre, et puis une sombre et banlieusarde en France, page 24 d'Elvis à la radio, vous êtes à la porte, Sabine Wynn.
Cogner toute sa vie sur une porte qui ne s'ouvrira jamais équivaut à écrire avec la même obstination qu'une Antigone qui ne voit plus la porte fermée parce qu'elle est attachée à son dos. C'est prendre littéralement la porte, être banni à jamais, ne plus avoir de porte vers où se tourner, avoir la porte d'entrée dans le dos, plaquée au dos, inséparable du dos. La fille a beau chercher partout, tourner dans tous les sens, elle ne trouvera pas d'échappatoire. Quand la maison n'a plus de porte, il n'y a plus de maison. Chercher la porte, devenir la porte, incarner l'obsession pour une porte sans maison. Une girouette tournant ad vitam aeternam sur son pivot d'incompréhension. Quel vertige! Quelle fin. Mais est-ce le même être, celui qui ouvre une porte et celui qui la ferme?
Une porte métaphorique dans votre récit, Sabine Wynn, qui fait référence apparemment à une scène d'enfance précise et traumatique.
Une scène d'adolescence, plutôt. C'est-à-dire qu'un jour j'ai été mise à la porte du foyer familial. Un jour, je suis rentrée une nuit et j'ai essayé de mettre la clé dans la serrure et on avait changé la serrure.
Évidemment, le mot bannissement, il est fort, il a une connotation juridique. On dit que quelqu'un est condamné à quitter son pays, qu'il ne pourra pas y retourner. Est-ce qu'il n'y a qu'une dimension familiale dans cette porte?
Bon, évidemment, cette porte fermée-là était la porte traumatique, voilà, entre toutes les portes fermées. Mais après, plus aucune porte fermée ne m'a fait peur. Et toutes les portes se sont toujours ouvertes. Mais c'est vrai que être banni de la famille, c'est un deuxième exil, en fait. Puisque la maison familiale, c'est un pays en soi, n'est-ce pas? C'est...
En tout cas, on comprend que vous grandissez dans une famille dysfonctionnelle, Sabine Wynn, qui vous fait écrire, page 38... J'ignore ce que mon histoire a en commun avec celle d'autres enfants de la diaspora vietnamienne. Je pressens juste que sa noirceur provient de la rage qui s'est saisie de mes parents et grands-parents à leur insu à cause de la suggestion au pouvoir colonialiste français. Expliquez-nous ce pressentiment.
J'ai toujours eu l'impression que le colonialisme, a inséré un ver dans le fruit et a contribué au pourrissement lent des familles sur plusieurs générations. Je ne sais pas trop quoi dire de plus sur ça, mais...
Ben si, vous êtes au bout de la chaîne, donc vous avez forcément lointainement intériorisé des séquelles de ces systèmes de colonisation dont on parle maintenant depuis quelques années. Mais c'est vrai que concernant les familles asiatiques en général et les familles vietnamiennes en particulier, on entend rarement ce genre de diagnostic. Mais vous, vous réglez justement vos comptes avec les préjugés sur les familles asiatiques qui sont propres sur elles, où rien ne dépasse, il n'y a que de l'excellence.
Oui, c'est vrai, puisque ce n'est pas vrai. La preuve, je viens d'une famille dysfonctionnelle et je ne pense pas que ma famille a été la seule famille vietnamienne qui fut dysfonctionnelle. La colonisation, la guerre, les guerres, et ensuite atterrir en France, cette contrée à laquelle mes parents avaient loué allégeance et dont ils avaient rêvé toute leur vie. Ils sont allés à l'école française et donc ils sont arrivés dans un pays qui n'a pas été aussi accueillant qu'ils l'avaient espéré. Ils se sont retrouvés déclassés et très vite dans la misère et brisés. Et ma famille est un exemple parmi tant d'autres. Après, la culture vietnamienne est quand même un produit de la culture chinoise qui fait que le sujet n'a pas le droit de penser par lui-même. On ne peut pas dire « je », il faut toujours parler au nom de la communauté. Quand c'est comme ça, il faut taire ses problèmes puisque la communauté doit toujours sauver sa réputation et on ferme la porte et au dehors, on présente une image impeccable. Je veux dire, mes parents... À l'intérieur de la maison, c'était des fous. Et à l'extérieur, quand ils venaient, je me rappelle, à l'école, à la kermesse de l'école, par exemple, de fin d'année. Mais mon père était en tailleur, ma mère était aussi en tailleur, ils étaient impeccables. Enfin, on n'aurait jamais pu imaginer ce qui se passait à la maison.
Est-ce qu'on peut dire que votre mère a fait de vous une affamée, Sabine Nguyen ?
Oui, on peut le dire, affamée de l'amour maternel et puis affamée aussi de nourriture, oui, puisque...
Puisque ?
Il y a eu des épisodes douloureux, elle ne m'a pas nourrie comme il aurait fallu, quoi.
Elle enfermait les vivres dans un placard avec la clé, vous n'aviez pas accès, vous étiez obligée de voler la nourriture.
Oui, c'était à l'adolescence, c'était peu avant de me retrouver à la rue quelque temps, oui.
Et comme vous écrivez des poèmes très très jeunes, eh bien c'est la preuve, dit-on, que vous êtes une menteuse. En tout cas, c'est ce qu'elle dira à l'assistante sociale qui viendra un petit peu vérifier comment tout ça se passe. Et par ailleurs, comme vos parents créent un monde où vous devenez une étrangère, Sabine Nguyen, où votre parole n'est pas la vérité, votre vérité n'est jamais entendue, je me demandais quelles conséquences ça avait sur votre lien à l'écriture.
En fait, moi j'aime beaucoup l'écriture documentaire. J'aime bien ce qui est scientifique, ce qui est prouvé, ce qui est documentaire. Quand on écrit, il faut être vraiment honnête. Honnête, ça veut dire écrire sur ce qu'on connaît. On ne va pas écrire sur des choses qu'on ne connaît pas du tout. Je ne vais jamais écrire un roman sur... qui se passe en Islande.
Donc la fiction ne vous intéresse pas du tout ?
La fiction m'intéresse beaucoup. Mais la fiction, pareil, elle est basée sur une réalité profonde, sa propre réalité. On n'invente pas n'importe quoi. Enfin, quand j'y invente, en fait, il faut que je remplace ce mot par écrit.
Et avant l'écriture, il y a eu la lecture. Et dans la lecture, la possibilité d'imiter certains personnages de fiction, justement. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez, alors je pense enfant, entre vous et les petites filles modèles de la comtesse de Ségur ?
Les petites filles modèles, c'était à la fois mes meilleures amies et moi, en fait. Un coup, j'étais Madeleine, un coup, j'étais Camille, un coup, j'étais Sophie. Et la comtesse de Ségur, c'était un peu ma maman aussi. En fait, chez nous, dans la maison familiale, c'était un peu la jungle, en fait.
Et pas de règles.
Pas de règles et trop d'interdictions. Donc c'est un peu la terreur. Et en fait, dans un climat de terreur, on n'apprend rien. Tout ce que je savais enfant, je l'apprenais dans les livres et à l'école, pas avec mes parents.
Donc vous étiez en mode survie à la maison.
Oui, complètement, tout le temps. Donc les petites filles modèles, la comtesse de Ségur, j'apprenais les bonnes manières avec elles. Par exemple, j'apprenais à ne pas mentir, j'apprenais à être généreuse, j'apprenais à faire la révérence. Enfin, je confondais un peu la réalité des livres avec la réalité extérieure. Pour moi, c'était la même réalité ici. C'était un continuum. Je n'avais pas très bien compris que c'était différent.
Oui. En tout cas, prix Jean-Jacques Rousseau et prix de la littérature de l'exil en 2023, en sol majeur, conseille amoureusement, parce qu'on n'en a pas parlé, de l'écriture. En tout cas, on conseille votre Elvis à la radio, paru chez Maurice Nadeau.
Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
Nous sommes plus de 10 000 survivants. Pour nous, c'est le début d'une longue marche de mort jusqu'au camp de prisonniers. Après des discussions interminables, les Viet Minh permettent l'évacuation de 850 des blessés vers les hôpitaux de Hanoï. Leur sélection est arbitraire. Beaucoup de blessés graves sont contraints de rejoindre les colonnes de prisonniers et de marcher pendant 40 jours vers les camps dans la jungle.
On était tous deux ou trois fois blessés, mais enfin, ça dépend des blessures, quoi. Moi, j'ai eu des petites blessures qui m'ont permis de... Mais pour la route, ça a été dur parce que j'étais blessé à la jambe et il fallait marcher. On a quand même fait plus de 700 km dans des conditions terribles. Terrible. Et là, la blessure, elle a fait mal.
Non seulement nous avions perdu la bataille, mais nous étions humiliés. Un prisonnier, c'est un homme nu. C'est un homme nu qui n'a plus... qui n'a plus d'espérance d'action, qui subit.
Extrait en sol majeur du doc Dien Bien Phu, chronique d'une bataille oubliée de Peter R. Combe, car finalement, quand on pense que c'est fini, pas du tout, ça revient comme une commémoration, on va dire une commémoration triste et humiliante pour l'armée coloniale française, les 70 ans cette année de sa défaite face aux Viet Minh dans la bataille de Dien Bien Phu. Alors quand on regarde cette date, 1954, évidemment, c'est longtemps avant votre naissance, Sabine Nguyen, et c'est longtemps aussi avant cette guerre du Vietnam, que vous avez indirectement connue. Mais je me demandais si cette date anniversaire avait une place dans votre panthéon mémoriel.
Non, pas du tout. Je sais juste que mon grand-père paternel a combattu à Dien Bien Phu.
Ben c'est pas rien, ça, quand même.
Voilà, oui, mais comme je n'en sais guère plus...
Ouais. Mais vous n'avez pas enquêté.
Non, je n'ai pas enquêté. Je me suis toujours tenue éloignée de l'histoire du Vietnam.
Pourquoi ?
La peur de réveiller des traumatismes, je crois. Enfin, le pays dans lequel je suis née n'existe plus, de toute façon. La ville dans laquelle je suis née n'existe plus. Elle ne porte même plus le même nom. Elle porte le nom du dictateur qui s'en est emparé.
Ho Chi Minh Ville.
Voilà, et moi je suis née à Saigon et je suis effectivement... Enfin, la guerre ne m'a pas indirectement touchée, elle m'a directement touchée, puisque je suis née pendant la guerre quand même, et mes parents ont dû partir à cause de cette guerre. Mon père a combattu durant cette guerre dans l'armée du Sud-Vietnam. Une partie de ma famille y est restée... L'un de mes oncles était en camp de rééducation pendant plusieurs années. Et j'ai voulu me construire autrement. Déjà, je ne suis pas très du genre, je ne sais pas comment dire, victimaire. Je ne me suis jamais vue comme une victime de quoi que ce soit. Je ne me suis jamais vraiment servie directement de cette matière-là pour écrire.
La guerre du Vietnam est à distance, vous l'avez tenue à distance. En revanche, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah vous ont fait cogiter.
Oui, c'est vrai. En fait, ça va faire 23 ans maintenant que je vis en Israël. Et c'est en arrivant en Israël que j'ai été confrontée à toute cette histoire-là de l'Holocauste, de la Shoah. J'ai rencontré des rescapés, j'ai traduit de la littérature en rapport avec les camps, etc. Donc, je crois que me plonger dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah... m'a permis peut-être indirectement de me confronter à l'histoire du pays dans lequel je suis née, le Vietnam.
Sur votre Facebook, j'ai été jeter un petit œil et j'ai vu que vous avez fait une place à une certaine Charlotte Delbault, qui était une grande résistante et rescapée des camps. On lui doit notamment cette prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Pourquoi cette poésie est importante pour vous ?
Puisque c'est une poésie qui a été écrite dans les camps, qui est pure, qui est au plus proche de la vérité d'un être vivant, je ne sais pas comment dire. Comme disait Emily Dickinson, on sait que c'est un poème quand on sent que le haut de notre tête arraché par une hache. Voilà,
j'ai l'image, elle est violente, l'image, oui. Quand même.
Mais c'est ça, en fait. On sait que c'est un poème quand ça nous bouleverse tout le corps. Mais oui, Charlotte Delbault. Et puis, il y a aussi un poète, écrivain israélien et poète que j'ai traduit, qui s'appelle Uri Orlev, et qui avait écrit des poèmes au camp de Bergen-Belsen quand il avait 12 ans, dans un petit carnet de poche qu'il cachait. Voilà, c'est pareil, c'est une poésie où rien n'est inventé, en fait.
Donc pas victimaire, mais j'entends bien la dimension poétique. Mais enfin, ce sont des poèmes qui disent quelque chose de l'expérience des camps. Donc pas victimaire, mais proche des survivants. Que ce soit des survivants de la Shoah et nombreux génocides.
Oui, ce sont quand même des poèmes qui disent « je suis en vie ». Ces mots en attestent.
Alors, lorsque la poésie lance son radeau, peut-être en direction de la grande histoire tragique, celle des boat people vietnamiens, arrivés au Canada, aux États-Unis ou en Europe dans les années 70, cela donne un magnifique recueil. Prendre la mer, 60 sonnets, donc écrit de votre main, mais c'est plus complexe que ça, Sabine Wynn. 60 sonnets, dont celui-ci.
Entre nous et les mots, il y a du métal en fusion. Entre nous et les mots, il y a des hélices qui tournent et peuvent nous donner la mort, nous violer, tirer du plus profond de nous le plus utile des secrets. Entre nous et les mots, il y a une petite fille nue qui se sauve, la bouche béante de frayeur. Une petite fille sous un lit, les mains sur les oreilles. La procession lente des fourmis rouges géantes dévorant des nourrissons. Des hélicoptères là-haut. Il y a des couverts en plastique d'Air France s'y agrippent des mains d'enfants orphelins. Il y a le père tremblant qui a tout perdu, qui porte les valises en carton, un bébé, un jean, des Ray-Ban Aviator et un chemisier blanc. De grands-pères inconnus, de pères colonialistes, que Lamartine et Flaubert ne réchauffèrent pas, il espère qu'on leur donnera des anoraks.
Sabine Wynn pour En sol majeur et sur RFI. Quelle est l'histoire de ce poème qui n'a pas de titre, hein ?
Oui, aucun des sonnets de Prendre la mer n'a de titre, puisque je voulais que toutes les voix se mélangent, en fait. Dans ce poème, il y a l'histoire de l'exil des Vietnamiens. Il y a aussi l'histoire de ma famille, puisque voilà, on retrouve la petite fille sous le lit devant les fourmis rouges. Il y a le père qui porte les valises en carton, un bébé dans les bras, des Ray-Ban Aviator, un chemisier blanc. C'est mon père. J'ai une photo de mon père où je le vois comme ça, habillé comme ça. Et les enfants orphelins qui s'agrippent à des couverts en plastique d'Air France, c'est mon petit frère et moi, en fait. Nous sommes descendus en 1976 de cet avion d'Air France à Paris Nord. À l'époque, l'aéroport s'appelait Paris Nord. Et nous sommes descendus de cet avion en tenant dans les mains des couverts en plastique. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est un souvenir. Ah, voilà. L'un des seuls. Mais je m'en souviens, c'était des couteaux à beurre à bourron avec un manche en bois. Et nous sommes descendus de cet avion armés pour cette nouvelle vie en France avec ces couteaux à bourron.
Alors, en fait, c'est presque un poème, j'ose pas dire autobiographique, mais en tout cas tiré de souvenirs intimes. Je mets tout ça en italique. Mais ces poèmes sont constitués de plusieurs textes, en fait, ces sonnets.
En fait, ces sonnets partagent la parole des boat people vietnamiens de la ville d'Ottawa, surtout, puisque j'ai pu les rencontrer en faisant un post-doctorat en sociolinguistique entre 2008 et 2010. J'ai interviewé une trentaine de membres de la communauté vietnamienne d'Ottawa et ils m'ont livré ces récits tout à fait tragiques. Et j'en ai fait des poèmes. Mais j'en ai fait des poèmes, c'est-à-dire que j'ai construit quelque chose à partir de leurs paroles. J'ai entremêlé les histoires pour les anonymiser. J'ai aussi inséré des éléments d'archives, de presse, d'autres histoires que j'avais pu lire, et des éléments de mon histoire personnelle.
Et de la littérature vietnamienne elle-même, qui est Kyu Kyo, pardon pour l'accent.
Alors,
et que lui devez-vous dans cette écriture?
C'est Nguyen Xu, c'était un lettré vietnamien qui a écrit le conte de Kyu. Enfin, je dis Kyu, mais je ne sais pas comment ça se prononce en vietnamien. Donc, c'était au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Et c'est un grand poème classique vietnamien de plus de 3200 vers, je crois. C'est un peu la Bible vietnamienne, en fait. Et quand les gens ont des dilemmes, des moraux, tout ça, ils vont relire le conte de Q pour essayer de trouver des solutions. Et ce conte raconte l'histoire de cette femme, qui est d'abord une jeune fille, qui a un destin tragique, qui doit quitter sa maison, qui devient prostituée, etc., etc. Donc ça raconte toute sa vie. Et comme c'est le texte littéraire vietnamien classique le plus connu, j'ai tenu à insérer ma retraduction de certains des vers de ce classique pour y introduire un peu de psyché vietnamienne dedans. Oui.
Alors, il faut juste dire un tout petit mot de la technique elle-même poétique que vous avez employée, parce qu'ils n'ont pas une facture classique, ces poèmes. Vous dites que ce sont des sonnets à traîne.
Oui, donc un sonnet normalement à 14 vers. Et moi, j'ai rajouté entre 1 à 3 vers. Mmh. En fait, donc mes sonnets ont entre 15 à 18 vers. Ça s'appelle les sonnets codés, C-A-U-D-E-S, donc de la coda, du latin qui veut dire la queue, la traîne. Et moi, j'ai trouvé que c'était la forme parfaite pour le contenu. Donc, on a une forme un peu carrée ou rectangulaire comme ça, comme un radeau ou un bateau. Et la traîne, c'est un peu le sillage dans l'eau, en fait, le sillage du bateau. Voilà.
Ce sont des poèmes truffés de dictons aussi, de bribes d'histoire coloniale. Page 17, on lit « Interné pour avoir cité Victor Hugo ». De référence littéraire française. Page 25, « Marguerite et ses frères se prenaient pour des anamites et passaient leur journée dans la brousse ». Il y a aussi des récits de traversées difficiles. Page 41, on lit « Reste la forêt interdite, intime, obscure, la forêt, la mer, le Mékong. Du plus profond du ver viennent à elle les disparus, leur histoire de gens des nuits. » Donc, je sens ces sonnets comme réparateurs et évidemment, je ne peux m'empêcher de voir derrière la plume la poétesse tisseuse que vous êtes. Le regard de la petite fille de Saïgon.
Surtout la petite fille effrayée de Saïgon. Parce que l'extrait du dernier poème que vous avez lu, c'était une référence durassienne. Chez Duras, il y a cette peur, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle l'a appelée la folle de Vientiane, ou je ne sais plus, qui la poursuit sur les routes. C'est la petite fille effrayée.
Est-ce que ce serait une manière, ces sonnets, de cheminer à votre manière vers ce qui n'est pas votre langue maternelle? La langue maternelle perdue, Sabine Nguyen.
C'est une très bonne question.
Et il n'y a pas de réponse.
En fait, j'ai fait un doctorat en linguistique pour essayer de réapprendre la langue vietnamienne. En fait, je l'ai réapprise en faisant ce doctorat. Mais après, je l'ai perdue à nouveau. Mais ces sonnets, c'était surtout pour partager l'expérience des boat people vietnamiens. Personne n'a vraiment écrit dessus, et enfin surtout de la poésie. Et c'est important parce que les personnes que j'ai interviewées m'ont livré des choses qu'elles n'avaient même pas racontées à leurs enfants. Et ce sont des choses tellement à la fois tragiques et belles et importantes, et des leçons de vie pour nous tous, et aussi des choses universelles, puisque les boat people vietnamiens, c'est une partie des migrants du monde, de tous ceux qui fuient les guerres, les régimes dictatoriaux, voilà, en mer. Et puis je voulais que ce livre soit bilingue français-anglais pour que le plus de personnes possible puissent le lire, et surtout dans la communauté vietnamienne d'Ottawa, qui est trilingue vietnamien-français-anglais. Leurs enfants eux-mêmes ne parlent plus vietnamien, mais ils lisent le français et l'anglais, voilà.
Et ces boat people, tout à coup, qui sont anonymes, vous leur donnez visage à travers « Prendre la mer, 60 sonnets pour les boat people » et c'est aux éditions Bruno Doucet.
Marthe kapike arantz havatki, an havat martnel kuisne kavati. Mayres narekner, glchistak denum yerpivan de yesachachlinum, baits te tur dener glchistak mayres, yev vorp cher manal. Massissares.
si je vous demande de me réciter un poème. Lequel vous vient à l'esprit?
Sabine Wynne. Il suffit de demander pour qu'il n'y en ait plus un seul.
Oui, voilà. En plus, comme j'ai une très mauvaise mémoire, oui, et puis comme j'ai le trac. Oui.
Mais vous dites que la poésie, c'est la maison. Pourquoi?
La vraie maison. Enfin, la maison où l'on peut vraiment vivre. Et quand je dis la poésie, je dis la littérature en général. Et je dis le livre où l'on peut vivre tranquillement. Voilà. On peut se réfugier dedans, en fait. Voilà, c'est un abri, la littérature, la poésie. Quand je vais très mal, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ouvre un livre et je le traduis. Voilà.
Duras, Pérec, Paul Auster, ce sont des noms marqués sur des livres qui font concurrence chez vous à quelques-unes de vos théières. Et puis, il y a aussi, à côté de tous ces noms, celui de Léa Goldberg, née en... Alors, j'ai regardé, hein, juste parce que vous nous avez ramené un poème de cette grande Léa Goldberg, née en 1911 dans ce qui était encore l'Empire allemand, c'est-à-dire en Prusse orientale. Elle est elle-même originaire d'une famille juive de Lituanie et elle a immigré en 1935 en Palestine mandataire et elle est devenue un classique de la littérature israélienne. Et Sabine, vous nous avez choisi de nous dire un extrait de son Voyage sans nom.
Oui, vous voulez que je vous le lise en quelle langue ?
En hébreu.
L'extrait, en hébreu.
On parle l'hébreu ici. En
vous parlez hébreu. Super. Zeshavuot, She'ish, Lopone Elai Beshmi. Cela doit faire des semaines que personne ne m'a appelé par mon nom. Shebemit Barbeti, Odlo Lamduoto. La raison en est si simple. Hanashim, Bechol Rerevei Haïr. Aux quatre coins de la ville, les gens ne le connaissent pas. Enam Yodimoto, Vehu Kayam, Rak Al-Niyar, Virtav, sourd, muet, aphone. Ve'en le col, des jours entiers, je marche sans nom. Yamim, dans des rues, Enyolechet, Lelochem, Berechov, je m'assieds sans nom, Jani Yodaat, Etchmo, face à un arbre, dont je connais le nom, je pense, Lelochem, aussi à celui dont je ne connais pas le nom. Ve'amadeti et Makcharim, j'ai marché avec les navires, me suis tenu et m'allais à Tidhar, près des ponts. On m'a jeté à la rue, avec les feuilles tombées des ormes. Ve'hayali, Anan Mu'ar, Le'adaruba Shrora. Ve'hayali, Shem Muzar, Asher Ish, Lo'yechol Lenachesh. Et un nom étrange que personne n'a pu deviner.
C'est un petit peu la définition de l'écrivain, ça, ne pas savoir son nom au bout de tant de pages noircies, Sabine Wynne. Mais je vous écoutais et en français et en hébreu. Comment vous sentez-vous dans cette langue hébreu?
Je me sens bien, parce que je trouve ça vraiment étonnant, merveilleux, fou, que je parle hébreu couramment alors que je ne parle pas vietnamien. Donc c'est bizarre, je me sens bien, mais en même temps je m'y sens étrangère évidemment. Et en fait j'aime bien me sentir étrangère.
Quel est le sens de cette trajectoire chez vous, Sabine Wynne? Une trajectoire qui prend sa source à Saïgon, qui bifurque par la France et pas seulement, et puis qui s'établit depuis de longues années maintenant en Israël.
J'y pense jamais en fait. J'ai toujours l'impression que le chemin est déjà tracé et en fait qu'il va tout le temps vers plus de lumière. Enfin, depuis cette enfance et cette adolescence dévastée, bah je n'ai fait qu'avoir de la chance, en fait.
Donc Israël, c'est une porte sur la lumière pour vous?
Oui.
Pourquoi? Ça tient à quoi?
Ça tient au fait que j'ai l'impression de vivre dans une société très libre, et donc qui dit société libre dit qu'on est libre dedans, en fait.
Alors, c'est pas le sujet, mais évidemment, c'est une question quand même incontournable. Comment vous vivez ? Vous êtes à Tel Aviv, hein,
oui, je suis à Tel Aviv. Donc, quand je dis société, je parle de Tel Aviv.
Voilà, il faut être précis. Comment oui. vous y vivez depuis le 7 octobre ?
Ben, je continue à y vivre.
Comment vous regardez les choses ?
Et
vous arrivez à mettre à
avec
distance ?
Avec effroi. Non, impossible. Je n'arrive à ne pas y penser qu'en étant en France. Parce que là-bas, non, on n'a aucune distance là-bas. C'est quand même... J'en ai connu des guerres en Israël, il y en a toutes les quelques années. Donc voilà, les guerres, les sirènes, les missiles, tout ça. On connaît, on a l'habitude, les attentats. Mais là, ce qui s'est passé le 7 octobre...
Vous vous sentez faire partie de ce « nous » israélien ? Depuis et
oui.
surtout après le 7 octobre ?
Oui, surtout après le 7 octobre, c'est vrai. Parce que, en fait, j'y avais jamais pensé à ce « nous ». Puisque je me sens toujours en dehors des choses et ça me convient. Ne pas appartenir, c'est bien aussi. Surtout quand on crée. Donc j'avais peut-être aussi un peu toujours le refus d'appartenir à quelque chose. Je ne suis pas du tout communautaire. Mais là, c'est vrai qu'à partir du 7 octobre, enfin, la société israélienne est une société très solidaire. Et c'est aussi pour ça que je m'y sens si bien. Parce que même si moi je suis étrangère et je reste en dehors et à l'écart, si j'ai besoin de quelque chose, on va m'aider sur le champ. Et après le 7 octobre, je me suis dit, il faut que je rende la monnaie de la pièce en fait. Il faut que je rende ce qu'on m'a donné. Et je ne peux pas rendre si je n'appartiens pas. Et j'ai effectivement essayé de rendre, j'ai fait du bénévolat, oui.
Merci Sabine Wynn de cette belle visite en sol majeur qui va se clore, sur la bande-son de notre invité. En trois répétitions. Première répétition.
Je sais combien sont précieux les moments de liberté provisoire d'une jeune mère. Hors d'atteinte de la tyrannie de son bébé, elle ferme enfin les yeux et tente de respirer profondément, une main pressée sur son front moite, de rassembler ses esprits et d'étirer l'instant de répit avant que les cris du bébé ne l'arrachent à elle-même et ne l'oblige à surgir de son corps, resté sur place entre deux portes de placard grandes ouvertes.
Deuxième répétition.
Je me souviens du cinéma Les Agriculteurs, et du fauteuil club du Caméra, et des sièges à deux places du Panthéon. Je me souviens du tac-tac. Je me souviens qu'un ami de mon cousin Henri restait toute la journée en robe de chambre quand il préparait ses examens. Je me souviens du pain jaune qu'il y a eu quelque temps après la guerre. Je me souviens des premiers flippers. Justement, ils n'avaient pas de flippers.
Troisième répétition.
Vers Madeti et Maksharim, j'ai marché avec les navires, me suis tenue et m'allais à Tidhar, près des ponts. On m'a jeté à la rue, avec les feuilles tombées des ormes. Vers Hayali, Anan Mouhar, Léa Daruba Shrora. Vers Hayali, Shem Mouzar, Asher Ish, Loyechol Lenachesh.
Émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio. Théo Raison, Tiffany Manta, Diego Tenorio, Yasmine Chouaki, nous, on vous retrouve la semaine prochaine autour de Sofiane Simerabet. Dans un instant, votre journal, suivi de tous les cinémas du monde.